France Musique.
C'est l'une des productions les plus attendues de la saison, Manon de Jules Massenet à l'affiche à l'Opéra de Paris à Bastille. C'est jusqu'au 10 avril avec sur scène pour la plupart des représentations la soprano sud-africaine Preti Yende, c'est dans le rôle titre. Et vous, Benjamin Bernheim, dans celui du Chevalier des Grieux. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
C'est Dan Ettinger qui dirige l'orchestre de l'Opéra de Paris. Citons aussi le grand Ludovic Tézier dans le rôle de Lescaut, le cousin de Manon. Une production qui sera diffusée le samedi 2 mai sur France Musique à 20h. On ne pourra pas voir votre mise en scène, normal, c'est de la radio. Vincent Huguet, bonjour.
Bonjour.
Depuis 2012, vous multipliez les mises en scène à l'opéra, notamment à Bordeaux, avec Marc Minkowski, La Vie Parisienne, tout récemment Les Contes d'Hoffmann, là on parle d'Offenbach, au Festival d'Aix-en-Provence aussi, on se souvient de Didon aîné il y a 2 ans, et très prochainement, Così fan tutte à Berlin. Vincent Huguet, c'est votre première mise en scène à Bastille, ça donne le trac. C'est une scène qui impressionne.
Ah oui, c'est une scène qui impressionne parce que c'est... Moi, j'ai toujours aimé cet endroit. Je fais pas partie des gens qui forcément préfèrent Garnier à Bastille. Mais c'est vrai que c'est un lieu qui, comme tous les lieux d'opéra au fond, mais qui a des exigences, celles de Bastille sont grandes. Parce qu'il y a dans le théâtre, il y a des volumes, il y a quelque chose qui fait que la scénographie, les décors ne peuvent pas être conçus comme ailleurs. Il y a quelque chose qui... On peut pas être minimal, je pense, dans les décors. Et pour que la proportion entre la salle et la scène fonctionne, il me semble qu'il faut aussi créer un événement architectural sur la scène. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pour Manon, en termes de volume, bien sûr, mais aussi d'esthétique, de référence architecturale. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de créer pour Manon.
Avec des masses, des blocs.
Exactement. Et ça permet aussi une chose qui est nécessaire, Benjamin et pourra peut-être en témoigner, c'est que les chanteurs peuvent se permettre beaucoup plus, non seulement en termes vocal, mais aussi en termes de jeu d'acteurs, s'ils sont un peu aidés par un décor. C'est-à-dire que quand la scène de Bastille est vide, les chanteurs n'ont d'autre choix que de venir chanter tout près de la fosse dans une version qui devient presque une version de concert. Donc ça veut dire qu'on peut faire un geste scénographique qui est beau, mais qui, à mon avis, est au détriment de la qualité de la représentation. Dans la plupart des scènes de Manon, je pense que le décor permet aux solistes des audaces, et Benjamin on est le héros, des audaces vocales, c'était très clair pendant les répétitions, Benjamin nous a parfois fait des choses qui nous ont tous laissé pantois, et on lui a dit mais tu peux vraiment faire ça, et il nous a dit oui, si le décor est comme ça, je peux faire ça.
Oui, ça vous confirmez,
ça m'a permis de...
Bernheim.
Absolument, ça m'a permis de pousser encore plus loin le risque, de prendre le risque de faire des couleurs, de pas trop se rapprocher tout le temps du devant de la scène, parce que vraiment toutes les scènes, en fait, le décor nous permet à chaque fois de nous sentir à l'aise avec la projection tant de notre voix parlée que de la voix chantée, et nous met tellement en valeur, en fait, on nous voit tellement bien, il y a peu de moments où on est caché, où on nous confond avec, on est vraiment toujours tellement visible, donc on a une grande responsabilité, mais en plus on est mis en valeur et ça nous aide tout à chaque fois dans tous les décors de cette production. Il y a cette projection qui nous est permise, en fait, par le décor, et qui nous permet déjà de... C'est une longue soirée, Manon, hein, c'est quand même le rôle de Desgrieux. Le rôle de Manon est très long, le rôle de Desgrieux est très très long. Ce sont des vraiment, on doit passer au travers de beaucoup de palettes de couleurs, et ça nous permet vraiment d'éviter de pousser, en fait. Ça nous permet vraiment de nous sentir à l'aise vocalement toute la soirée.
Vous, Benjamin Bernheim, vous êtes pour le coup habitué, notamment cette saison de l'Opéra de Paris.
Un peu plus.
On vous retrouve dans le costume de cosmonaute bientôt, oui, dans cette mise en scène de la Bohème de Puccini. Vous en étiez juillet, déjà avec Preti Yende sur la scène de Garnier, cette fois dans la Traviata en début de saison. Il y a quand même un sel particulier, quelque chose de particulier quand on se produit à Paris.
Oui, c'est très particulier.
Vous voulez dire non, hein?
Non, non, pour moi c'est extraordinaire. C'est la ville de ma naissance, c'est la ville de ma famille. Pour moi c'est très très important. En plus, c'est peut-être le petit clin d'œil autant au destin qu'à ma carrière. Je chante 3 opéras cette année à l'Opéra de Paris, à Garnier et à Bastille. 3 opéras qui se passent à Paris. La Traviata, Manon, la Bohème. Je trouve c'est extraordinaire d'avoir la chance de voyager sur scène, toujours dans Paris. Je trouve c'est merveilleux. Pour moi, c'est un petit clin d'œil. Il y en a qui vont dire que ça n'a aucun intérêt, mais moi, je trouve que c'est génial de pouvoir faire ça.
Manon de Jules Massenet, mise en scène par Vincent Huguet avec Benjamin Bernheim dans le rôle de Desgrieux. Ils sont nos invités jusqu'à 9h.
Est au charmant où la crainte fait trêve, où nous sommes deux seulement. Viens, Manon, en marchant, je viens de faire un rêve. En fermant les yeux, je vois là-bas une bleue retraite, une maisonnette toute blanche au fond des bois.
C'est dans l'acte 2 de Manon de Jules Massenet, Benjamin Bernheim, l'Orchestre Philharmonique de Prague, dirigé par Emmanuel Villaume. Sur votre premier disque solo, qui porte votre nom, Benjamin Bernheim, paru chez Deutsche Grammophon, on en avait parlé ici même il y a quelques mois.
Absolument.
Il y a 10 jours, vous avez été sacré artiste lyrique de l'année aux Victoires de la musique classique ex aequo avec la mezzo Karine Day. Bravo, félicitations.
Merci.
C'est une récompense. Grand public diffusé à la télévision. Comment vous la prenez, comment vous l'interprétez, vous qui étiez quasiment inconnu de nos services il y a 4-5 ans, personne ne connaissait Benjamin Bernheim il y a quelques années.
C'est une belle reconnaissance. En plus, je ne passe même pas par la case révélation, je passe directement à la case nominé et gagnant, donc c'est extraordinaire. Surtout, c'est une grande reconnaissance de la part du métier, des spécialistes, de la presse spécialisée, de la télévision évidemment, mais surtout de tous les gens qui votent pour moi, alors qu'effectivement, je ne suis pas du sérail parisien, je ne suis pas du sérail français, je n'ai pas fait mes études en France, j'ai fait mes études à l'étranger, j'ai fait mes armes à l'étranger, donc c'est vrai que c'est une sacrée reconnaissance. Et je préfère être tranquille avant d'aller sur scène et me dire que je fais toujours la même chose. Que ce soit il y a 5 ans ou aujourd'hui ou dans 5 ans, je reste simple et tranquille.
Ça vous rassure, vous?
Ouais, je crois que c'est
mon reclus de doute.
Oui, je crois que c'est ma façon. Je crois que c'est ma façon de juste de voir les choses avec un peu de perspective, de se dire que c'est très important ce qu'on fait, mais c'est de l'opéra, c'est de l'entertainment. Je suis désolé de dire ça à la radio en anglais, mais on sert l'art, on sert le public. Je prends mon métier au sérieux, mais faut pas trop se prendre soi-même au sérieux. Donc tant mieux. Je suis ravi d'avoir cette victoire, c'est extraordinaire. Mais la vie continue et je donne toujours la même chose sur scène.
Vincent Huguet, l'opéra, C'est de l'entertainment.
Non, j'étais en train de me dire que Benjamin parle avec beaucoup de sagesse. On en manque un peu parfois dans ce métier. Mais je trouve qu'il a raison de parler comme ça, parce que étrangement, c'est quand même, c'est vrai que c'est un petit monde dans lequel on se dit qu'on a toujours beaucoup de chance d'être, mais qui peut être aussi tellement violent et extrême et déraisonnable et parfois irrationnel, que je trouve formidable que Benjamin prenne les choses comme ça. En fait, il y a une chose, c'est que effectivement, Benjamin a raison. À la fois, on peut dire que c'est du divertissement, mais en même temps, l'essence même de l'opéra est d'être dans les extrêmes. Donc, c'est vrai qu'il y a une confusion qui est possible, parce que quand on vient de passer 6 heures à répéter des sentiments extrêmes, où on s'aime pour la première fois, où on va mourir, où il nous reste 3 minutes à vivre, etc., on peut comprendre que ça déteigne un peu sur les gens qui, qui travaillent dans cet environnement. C'est pour ça que c'est bien, parfois, de rappeler un peu les choses.
Oui, c'est très important pour moi de garder, et surtout, je pense qu'on vient de travailler pendant 5 semaines cette production de Manon, qui était absolument une expérience extraordinaire avec le cast, avec l'équipe. Je crois que ce serait dommage que, parce que tout d'un coup, je reçois une victoire, je ne sois plus le même qu'avant. Donc voilà.
Donc il n'a pas pris la grosse tête.
Mais pas du tout. Et surtout, il n'a même pas pu la recevoir lui-même parce qu'il répétait avec moi le jour même. Et ça, c'est vraiment du professionnalisme.
Il a préféré être
il a préféré répéter avec l'orchestre.
C'était important, c'était la dernière ligne droite.
Bah oui, mais c'est un signe, ça dit beaucoup de choses.
Je ne pouvais pas me permettre de...
Ce rôle, vous parliez d'éteindre, est-ce que ce rôle du chevalier des Grieux, parlons de la voix, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé depuis Manon à Bordeaux l'an dernier avec Olivier Py, c'était votre prise de rôle, vous l'enregistrez là sur le disque, en quoi ce rôle est-il fait pour vous, en quoi est-il fait pour votre voix, Benjamin Bernheim?
Alors, je crois qu'il est fait pour moi, il est fait pour beaucoup de ténors, mais pour moi, il me tombe sur la voix comme un gant. J'ai jamais vécu ça avec un autre rôle, à part Rodolfo de la Bohème. Mais là, dans Des Grieux, il y a un aspect extraordinaire, c'est-à-dire que tous les actes, tous les tableaux de cet opéra fait passer le rôle de Des Grieux par toutes les couleurs que j'ai dans ma voix. Il y a un début, un climax au milieu, et ça redescend tranquillement jusqu'à la mort de Manon, qui est d'une grande beauté. Il y a beaucoup de rôles qui sont pas faits comme ça. Des rôles où tout d'un coup, tout de suite, on arrive sur scène, il faut lâcher les chevaux. D'autres comme le Duc de Mantoue dans Rigoletto, où il faut rester avec la stamina, l'énergie jusqu'à la fin. Ce que j'aime beaucoup dans ce rôle de Des Grieux, c'est que c'est un peu le seul rôle d'homme quasiment féminisé dans le sens moderne du terme. C'est-à-dire que c'est pas l'homme qui dirige, c'est pas l'homme qui dit ce qui va se passer. Tout se passe selon le bon vouloir de Manon. Ça, c'est très moderne aujourd'hui. Qu'un homme se mette en retrait pour que la femme existe, pour que la femme brille, c'est aujourd'hui, c'est le 21e siècle. C'est fou qu'il était en avance sur ça, Prévost, avec cette histoire de Manon. Et à aucun moment, on sent, en tout cas dans l'opéra, on ne sent Des Grieux dire maintenant c'est moi qui apprends les rênes, maintenant c'est moi l'homme, c'est moi qui mets l'argent. Non, il met tout dans les mains de Manon. Et c'est d'une modernité, c'est vraiment un rôle, un caractère, un personnage, une personnalité très très moderne. Et c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui on vit ça énormément dans notre société avec l'émancipation des femmes, et c'est tant mieux. Mais on voit surtout les capacités de l'homme moderne de plus en plus à se mettre en retrait et à laisser la femme vivre.
Benjamin Bernheim, Vincent Huguet, une femme, en voici une, et ce n'est pas du tout de l'opéra.
C'est la romance de Paris, au coin des rues, elle fleurit, ça met au cœur des amoureux, un peu de rêve et de ciel bleu, c'est du refrain de nos faubourgs. Parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. Ils s'aimaient depuis 2 jours à peine. Il y a parfois du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'il était amoureux, leur destin n'était plus malheureux. Ils vivaient avec un rêve étrange, et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, oui, aussi pur que le tendre vin d'or. C'est la romance de Paris, au coin des rues, elle fleurit, ça met au cœur des amoureux, un peu de rêve cercle de fleurs bleues, ce doux refrain de nos faubourgs, parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en est épris. C'est la romance de
Joséphine Baker sur France Musique, cette chanson de Charles Trenet, La Romance de Paris. Non, je ne suis pas devenu fou. Benjamin Bernheim, Vincent Huguet, cette Manon dans laquelle vous chantez, Benjamin, jusqu'au 10 avril à Bastille, et cette Manon que vous avez mis en scène, Vincent Huguet. Elle se déroule non pas dans le 18e de l'abbé Prévost, mais plutôt dans les années folles, dans les années 1920. On croise des danseuses, notamment un changement d'acte qui évoque la figure de Joséphine Baker. Pourquoi ?
Parce que, justement, il m'a semblé que j'ai cherché, en fait, dans l'histoire, un moment où l'histoire de Manon pouvait se raconter différemment. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été, même dans le livre de l'abbé Prévost, déjà, j'ai jamais cru au fait que c'était une courtisane ou une prostituée. C'est-à-dire que l'argent, ça referme l'histoire. Oui, alors à ce moment-là, on dit c'est une femme vénale, coquette, etc. Moi, d'abord, quand j'ai lu le livre, quand j'étais très jeune, j'ai pas du tout eu cette impression-là. Et je l'ai encore moins avec l'opéra de Massenet. Et je pense que Massenet parle pas du tout de ça. Alors, j'ai cherché un contexte où, justement, le choix qui se pose à cette femme, à Manon, entre un amour romantique, idéal, un peu adolescent, qu'elle découvre avec ce dégrieux qui est une sorte d'ange, en fait, et en face, les ambitions d'une femme qui veut devenir une reine de Paris, justement, une époque, donc, où ce choix pouvait avoir des résonances fortes avec notre époque. Et il m'a semblé, justement, que les années 20 étaient des années très intéressantes pour ça, parce que c'est la première fois, je pense, dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire du monde, que des femmes peuvent vraiment conquérir un nouveau statut sans protecteur, sans particulièrement de vénalité, tout simplement par leur talent, en devenant...
En
venant de rien, ce qui est le cas de Joséphine Baker, de Gaby Delis, de Miss Tinguet, de Suzy Solidor, toutes ces femmes avec qui on a passé beaucoup de temps avec mon équipe pour préparer ce spectacle, et qui ont des itinéraires extraordinaires, notamment Joséphine Baker qui devient résistante, qui ensuite va soutenir Martin Luther King, etc. Et j'ai trouvé que c'était des figures tutélaires qui étaient intéressantes et que Manon, ça aurait pu être l'une d'elles. Disons qu'on pourrait dire que Manon, c'est une Joséphine Baker qui n'a pas réussi jusqu'au bout, ou en tout cas que la société a empêché d'aller aussi loin. Et c'est des femmes qui prenaient des risques, hein, d'ailleurs, dans leur vie. Et donc, voilà, c'est vrai que j'ai voulu entourer Manon de ces femmes et que ça change aussi l'attitude des hommes, et notamment celle de Desgriers aussi. Puisque c'est plus un rapport binaire homme-femme, puissant-faible, mais que les cartes sont absolument redistribuées.
Et ça a permis surtout une relecture. Ce qui est très, très intéressant de le travail avec Vincent Huguet et Pretty Yende, c'est que ça a permis une lecture aussi de l'œuvre très très différente de ce que je connaissais, mais on a vraiment mis l'accent sur le fait que Desgrieux était vraiment attend beaucoup de retours de Manon et qu'il n'en reçoit peu. Finalement, c'est une femme qui est très sûre d'elle, qui sait ce qu'elle veut, qui sait qu'elle veut briller. Elle vise quelque chose à l'horizon et rien ne l'arrêtera. Et ce qui était très fort, c'est de s'apercevoir, je le savais sans vraiment le savoir, c'est que Desgrieux dit, je ne sais pas, 10-15 fois « je t'aime » dans cet opéra à Manon. Elle ne lui dit « je t'aime » que 3 fois. Elle lui dit « je t'aime » quand elle doit le sortir de Saint-Sulpice parce qu'elle a besoin, parce qu'elle est, elle se sent un peu guilty, voilà. Elle lui dit « je t'aime » parce qu'il a gagné de l'argent et elle lui dit « je t'aime » coupable, excusez-moi, oh mon franglais horrible. Et elle lui dit « je t'aime » à la fin parce qu'elle sait qu'elle va mourir. Et c'est terrible parce qu'on voit, pour Desgrieux c'est terrible, mais c'est très très fort de voir à quel point il était un peu en avant sur son temps, cet abbé Prévost.
Et elle aussi.
Sur les rapports hommes-femmes, parce que là pour une fois on voit pas un homme qui maltraite une femme. On voit pas un homme qui ne comprend pas les codes. Lui, il comprend tous les codes, mais il s'en fiche. Il rejette son père. Il a Manon, il a plus Manon, il retrouve Dieu, il a besoin, comme Vincent l'a dit au début, Desgrieux, il a besoin d'un maître. Il peut pas vivre sans un maître. Si c'est pas Dieu, c'est son père. Si c'est pas son père, c'est Manon. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que il a besoin d'une moitié. Et ça a été très très beau de vraiment découvrir cette pièce avec Vincent et de se rendre compte de la modernité du personnage de Desgrieux et de Manon. C'est vraiment un couple d'aujourd'hui.
Mais elle l'aime quand même, Manon.
Elle l'aime, mais vous savez, il y a une différence entre « je t'aime » et « je t'aime bien ». Desgrieux, il l'aime et elle l'aime bien.
Vincent Huguet, quand on met en scène Pretty Yende et Benjamin Bernheim, qui ont déjà partagé la scène en début d'année, dans la Traviata, on sent ça, qu'ils ont déjà formé un couple sur scène?
Oui, on le sent, parce que sinon, normalement, il faut un peu plus de temps pour qu'un couple se fasse confiance, même en studio de répétition. Donc, cette confiance, elle était là dès le début. En revanche, moi, j'ai quand même senti ça comme une première fois. Même si Benjamin avait déjà fait Des Grieux, Pretty n'avait jamais fait Manon. Et surtout, ils ont eu l'élégance ou l'élégance et l'intensité de pas me faire sentir qu'ils avaient une histoire avant, ce qui peut être moins inspirant pour moi, c'est-à-dire d'arriver après la bataille, si je puis dire. Et puis, on a passé 3 jours, presque que tous les 3 ensemble, à regarder tout ce qui ont été 3 jours inoubliables, où on a regardé tous les duos. Mais c'est vrai qu'ils se font confiance, qu'ils ont une façon d'être ensemble, c'est certain, qui résulte du fait qu'ils ont fait ce Traviata ensemble.
Non, il y a vraiment une belle collaboration avec Pretty. Je pense que tous les deux, on a juste ce côté de confiance en l'autre et aussi de pudeur qui fait qu'on se respecte énormément. D'une certaine manière, on essaie toujours de mettre l'autre dans les meilleures conditions pour qu'il brille ou qu'elle brille quand c'est le moment. Et puis il y a d'autres moments où on doit tirer la couverture vers soi, et là c'est l'autre qui nous aide. C'est une belle collaboration avec Pretty, et c'est deux choses complètement différentes, parce que cette Traviata à Garnier était très particulière, très moderne, avec beaucoup de projections.
Réseaux sociaux, smartphone,
smiley. Beaucoup de bling-bling et tout ça, et là on est dans une lecture où on est vraiment des acteurs où on nous voit nous, et beaucoup repose sur nous deux, et ça a été une belle chance. Je crois qu'il y avait un avant et il y aura un après Vincent Huguet.
Pretty and the Benjamin Bernheim, un couple d'opéra.
Libiamo negli eti calici che la bellezza infiora, che la fuggevole ora si nebria voluta. Libiam e dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Libiamo, amore, amor tra i calici più caldi paci avrà.
De la Traviata de Verdi, enregistrement de Medici, c'était Pretty and the Benjamin Bernheim, l'orchestre de l'Opéra de Paris dirigé par Michele Mariotti. Manon, c'est jusqu'au 11 avril, ce sera le 2 mai sur France Musique à 20h. Je signale aussi qu'on peut le voir partout en France le 17 mars au cinéma, dans les cinémas UGC, même peut-être au-delà des frontières françaises.
Bah, espérons.
On parlait de Manon, caractère fort, femme forte. Elle n'est pas là, mais Preti Yende, Vincent Huguet.
Preti Yende, elle est très très étonnante parce qu'elle est à la fois totalement instinctive, presque animale parfois, et en même temps elle est très cérébrale. Preti, je dirais qu'en plus elle est connectée à une autre dimension, je sais pas très bien laquelle, mais c'est certain, elle a une sorte de vision en fait. Elle est à la fois la personne en répétition la plus agréable, la plus professionnelle, la plus simple, je veux dire la moins diva qui soit, mais l'être qu'elle est en même temps, c'est évident, et je pense qu'elle a ça depuis toujours, elle est reliée à quelque chose de supérieur. Et c'est ça, avec ça qu'elle joue, c'est avec ça qu'elle travaille, qu'elle joue, je veux dire, au sens théâtral. Et je pense que c'est ça aussi qu'elle donne autour d'elle dans une répétition.
Benjamin Bernheim, vos deux voix vont bien ensemble ?
Quand on met tout à disposition de l'autre pour qu'il brille, quand il doit briller, on fait la même chose vocalement. Preti, quand elle sent que j'ai besoin de support, d'une position qui va m'aider à chanter, elle m'aide et moi je l'aide aussi. Donc vocalement, on a des voix d'une certaine manière très différentes parce qu'on fait des répertoires très différents. Moi j'ai pas fait de Rossini, j'ai pas fait de Bellini, mais en même temps elle se marie bien parce que on se met ensemble vraiment, on se met en condition tous les deux pour raconter une histoire qui tienne la route. Voilà.
Belle conclusion. Manon, June Massenet, c'est jusqu'au 10 avril à l'Opéra Bastille. Parfois on se dit c'est plein, mais non, il reste quelques places pour ce Manon. Ce sera également sur France Musique le 2 mai, au cinéma le 17 mars. Signalons aussi qu'il y a une autre distribution avec Amina Idriss et Steven Costello. Merci à tous les deux. On se quitte avec Roberto Alagna, ça va ?
Oui.
Voilà deux voix qui vont bien ensemble, Angela Giorgio et Roberto Alagna. Merci à tous les deux.
Merci Jean-Baptiste.
Merci.
Ce plume à main, la fin de l'acte 3 de Manon de Jules Massenet avec Angela Giorgio, Roberto Alagna, l'orchestre symphonique du Théâtre de la Monnaie dirigé par Antonio Papano. Marion, c'est Manon, c'était l'Opéra Bastille jusqu'au 10 avril et ce sera sur France Musique le samedi 2 mai à 20h et au cinéma partout en France le 17 mars. Je précise que cette rencontre avec Benjamin Bernheim et Vincent Huguet a été exceptionnellement enregistrée il y a quelques jours, ce qui explique que nous n'ayons pas abordé avec eux la grève qui a repris à l'Opéra de Paris.
À réécouter sur francemusique.fr.